Merci pour la présentation. Bonsoir à tous et à toutes. Je connais déjà un certain nombre d'entre vous hein, et d'autres depuis encore plus longtemps. Alors, vous allez d'abord excuser si ma voix se prend à certains moments. J'étais complètement à faune la semaine dernière. Là, ça va mieux, mais à une semaine près, la conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, je vais essayer de maîtriser ma voix pour tenir jusqu'au bout. Jamais depuis deux décennies, la situation n'a été aussi calme au Moyen-Orient. Alors, ce n'est pas moi qui le dis avec un humour qui serait mal placé. C'était le 29 septembre dernier, 8 jours avant les tragiques événements dont vous avez entendu parler. Et c'était de la bouche de Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité du président Biden. Jamais la situation au Moyen-Orient n'a été aussi calme depuis deux décennies. Jamais elle n'a été aussi calme. De plus en plus d'États arabes entraient dans le processus d'Abraham en signant des accords de paix séparés avec Israël. L'Arabie saoudite elle-même, figure de référence dans le monde arabo-musulman, était en négociation pour signer un futur accord de paix et de normalisation avec Israël. L'Iran et l'Arabie saoudite, grands adversaires géopolitiques de la région, avaient renoué, en tout cas des relations diplomatiques, par l'entremise de la Chine. Ils n'étaient pas jusqu'aux rebelles houthistes du Yémen, qui ne discutaient avec les Saoudiens d'un accord de paix, car ils n'étaient pas tout à fait dans le même camp dans cette guerre civile du Yémen, et les discussions étaient assez avancées. Et puis surtout, et c'est ce qui m'a donné l'idée de la conférence de ce soir, c'est que plus personne, ou presque, ne parlait du problème palestinien. Voilà un problème qui avait tenu le devant de la scène internationale pendant une génération entière. Et voilà une question géopolitique qui appartenait, vous savez, à cette longue liste de ce qu'on appelle les conflits gelés. C'est-à-dire des conflits dont aucun des points centraux n'a été réglé, mais dont on n'entend plus parler, qui sont retombés en intensité, qui sont en hibernation, en tout cas en apparence. Voilà, c'était le 29 septembre, c'était Monsieur Jack Sullivan, il faisait beau, voilà. Et puis il y a eu le 7 octobre. Et puis il y a eu le 7 octobre. Il y a eu un petit peu plus qu'un raid, cette invasion, on va dire en tout cas partielle, par l'organisation palestinienne, le Hamas, islamiste, sur Israël. L'occupation pendant 2-3 jours d'un certain nombre de territoires, et surtout des massacres épouvantables qui ont fait 1200 victimes, civiles et militaires, sans compter le sort que l'on ne peut, dont on peut augurer de la fin pour le moment, des 200 otages qui sont encore entre les mains du Hamas et qui ont été rapatriés, si j'ose dire, dans la bande de Gaza. Voilà. Depuis, une intervention militaire israélienne, dont le compte au jour d'aujourd'hui est de 24 000 morts. Côté, merci, oui ça c'est en cas de problème, pour moi, merci, je vais mettre sur la petite table, c'est 24 000 morts, 24 000 morts en soi ça ne dit rien, il arrive un moment où le nombre de victimes, ce ne sont plus des personnes, ce sont des statistiques, hein, comme disait quelqu'un, 24 000 morts ça représente un peu plus d'un pour cent maintenant des habitants de la bande de Gaza, un peu plus d'un pour cent. Voilà. Et probablement ce n'est pas terminé, tout indique que la guerre est amenée à se poursuivre, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Bref, cette question palestinienne qui semblait complètement passer à l'arrière-plan, en hibernation, nous a sauté à la gorge, en pleine figure, et avec des répercussions dont vous avez pu constater qu'elles concernent la France aussi. Remontée d'un anti-judaïsme, d'un antisémitisme, très forte communautarisation des prises de position sur cette question, dans un pays, le nôtre, qui est à la fois la plus grande communauté musulmane d'Europe et la plus grande communauté juive d'Europe, et qui d'une certaine façon connaît les répercussions internes au niveau politique, au niveau culturel de cette crise. une crise qui non seulement semble revenir ou ressurgir, j'allais presque dire de nulle part, mais ça en histoire et en géopolitique, ça n'existe pas cette expression, enfin en tout cas qui pour beaucoup de gens semble revenir de nulle part et qui tout de suite prend une dimension, vous l'avez remarqué, non pas locale mais internationale. Mais internationale. Avec des titres alarmistes dans les journaux, est-ce que nous allons vers la troisième guerre mondiale? Est-ce que l'Iran, en voie de nucléarisation, va rentrer dans le jeu? Est-ce que la Russie de Vladimir Poutine, déjà nucléarisée, va rentrer dans le jeu? Et puis quid de la Chine? Et puis quid des États-Unis qui réinvestissent militairement la région depuis le 7 octobre? Donc une affaire qui revient et qui tout de suite prend un caractère incroyablement internationale, comme elle avait connu dans les années 70, 80 et encore début 90. Autrement dit, je voudrais échanger avec vous ce soir sur finalement trois choses qui rythmeront un petit peu mon propos. La première question, c'est était-il légitime de passer aux oubliettes cette question palestinienne ? Les dirigeants politiques sont-ils ou étatiques sont-ils à ce point en manque de lucidité à l'heure actuelle pour avoir ignoré qu'il y avait là encore un baril de poudre? Ou au contraire, y avait-il quelques raisons pour penser qu'effectivement cette question était en voie, sinon de règlement, du moins de quasi-disparition? Ça, ce sera le premier point. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est les choses qu'ont ignorées un certain nombre de dirigeants, à commencer d'ailleurs par les dirigeants israéliens, sur le fait que cette question palestinienne, pour être un conflit gelé, n'en restait pas moins un baril de poudre. Et c'est presque une leçon de choses, ce qui arrive depuis le 7 octobre, sur ce qu'est un conflit gelé, et sur le potentiel extraordinairement dangereux qu'il y a à laisser pourrir une situation sur le plan politique. On ne met pas la poussière sous le tapis impunément. Et ce qui se passe depuis le 7 octobre est un petit peu une illustration de ça. Et puis, dans un troisième temps, alors je ne vous parlerai pas de l'avenir, parce que ça, je suis notoirement incompétent là-dessus, je vous dirai quels scénarios sont à l'heure actuelle envisagés pour la suite. Embrasement généralisé de tout le Moyen-Orient, et donc avec des conséquences internationales tragiquement calculables, pourrissement à nouveau, retour à une forme de pourrissement, ou qui sait, l'histoire est parfois ironique, occasion de régler peut-être enfin sur le fond cette question. Voilà, les trois temps de mon intervention ce soir, et je serai ravi d'échanger avec vous naturellement sur cette question. Alors, premier temps, qu'est-ce qui permet de dire qu'on avait oublié la question palestinienne? Et surtout, y avait-il des raisons rationnelles d'oublier la question palestinienne? Et la réponse, je vous l'ai dit à l'avance, avant de développer, elle est oui. Le pire, c'est que quand on fait des erreurs, on les fait aussi pour des raisons rationnelles. Et il est toujours facile rétroactivement de juger ceux dont on estime qu'ils n'ont pas été lucides. En réalité, il y avait bien des raisons de penser que cette question, alors, n'était pas en voie de règlement, mais plutôt était en voie de dépérissement. Première chose, cette question palestinienne, on peut dire qu'elle était sortie des écrans radars au vu du caractère central qu'elle avait eu dans les relations internationales à partir des années 60-70. Je ne vous ferai pas l'historique, on pourra en parler ensemble après s'il y a des questions, si vous le souhaitez, parce que si j'en fais l'historique un petit peu ancien, là ça se transforme, c'est un nouveau format, c'est la nuit de la géopolitique et le petit déjeuner est servi le matin. Donc je répondrai naturellement, non, limite de mes possibilités, à vos questions, nous échangerons là-dessus. Et puis je voudrais attirer votre attention juste sur une chose. Je parle bien de la question palestinienne et pas de la question de Palestine. Et il faut être très rigoureux sur les termes. La question de Palestine, dont je ne parlerai pas, puis en général quand l'orateur dit ça, il en parle pendant 5 minutes, la question de Palestine dont je ne vous parlerai pas, c'est la question qui a trait à un territoire de 27 000 km², c'est très précis, pardon, de 27 000 km², voilà, tout ce qui est en bleu et dans différentes nuances d'orangé sur cette carte, à l'exception du plateau du Golan. Voilà. 27 000 km², la taille d'une toute petite région française. L'État d'Israël, dans ses frontières internationalement reconnues, c'est 22 000 km². Ce qu'au mieux les Palestiniens, en l'état actuel des choses, peuvent espérer comme État, en tout cas ce qu'ils revendiquent, et qui est en orangé et en bleu foncé sur cette carte, c'est 5 000 km². Alors là, ce n'est pas la taille d'une région, c'est la taille d'un département français. Je vous dis ça pour que vous ayez une idée de l'échelle. Hein ? Ce sont des problèmes d'une échelle départementale qui ont une dimension internationale. Voilà. Ça, c'est la question de Palestine. La Palestine, la définition juridique, ça a été le nom donné au territoire qui, après la Première Guerre mondiale, a été confié en mandat d'administration par la Société des Nations à la Grande-Bretagne. À charge pour la Grande-Bretagne, c'était le statut de mandat SDN, de préparer ce territoire à l'indépendance. D'autres territoires du Moyen-Orient avaient ce statut de mandat. Il y avait la Transjordanie, qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie. Il y avait l'Irak, la Syrie, le Liban actuel. C'était des mandats, ce n'était pas des colonies, ce n'était pas des protectorats. C'était des territoires qui avaient appartenu à un pays vaincu de la Première Guerre mondiale, en l'occurrence l'Empire ottoman, qui était confié en administration à un pays vainqueur, mais pas pour qu'il y reste définitivement, pour qu'il prépare les populations à faire État, un Américain aujourd'hui dirait faire du state building, et puis peut-être aussi éventuellement faire du nation building, créer une conscience nationale, là où les liens généralement étaient plutôt d'ordre clanique ou tribaux que d'ordre stato-national à l'européenne. Ça, c'est la Palestine. C'est la question de Palestine qui, normalement, aurait dû être réglée par un vote de l'Assemblée générale de l'ONU à la majorité des deux tiers en novembre 1947, avec sur la table deux possibilités, ou un seul État de Palestine, avec dans la population deux tiers d'Arabes, un tiers de Juifs, et dans les deux tiers d'Arabes, environ 10% de chrétiens et 90% de musulmans. Donc un État, on va dire, binational, qui forcément aurait été laïque, du même coup, de par ses caractéristiques, et qui aurait suivi la jurisprudence ONU. Je parle bien de jurisprudence, pas de texte codifié. La jurisprudence ONU, c'est que quand un territoire colonial arrive à l'indépendance, ses frontières administratives de l'époque coloniale deviennent les frontières du nouvel État indépendant. Autrement dit, right or wrong, ses frontières coloniales, parce que sinon on n'en finit plus de redécouper les frontières dans le monde et ça occasionnera des guerres, ces frontières coloniales deviennent les frontières du nouvel État indépendant. C'est une jurisprudence, ce n'est pas un article de droit, c'est une jurisprudence ONU, et ça n'est un article de droit que dans la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'Union Africaine aujourd'hui, où alors là c'est codifié, en Afrique on ne retouche pas les frontières, quelles qu'elles soient, et même totalement artificielles, d'origine coloniale, sinon on n'en finirait plus. Ça c'était la proposition numéro 1. Proposition numéro 2, il y a deux peuples qui dans le cadre d'une guérilla depuis 1945 s'affrontent, et s'affrontent d'ailleurs chacun des deux contre l'occupant britannique, d'une partie à trois, qui sont irréconciliables, deux peuples irréconciliables, deux États, vous me passerez l'expression, mieux vaut un bon divorce qu'un mauvais mariage. Voilà. C'était les deux propositions qui étaient sur la table. Le vote a eu lieu à l'Assemblée générale, la majorité des deux tiers, et à la majorité des deux tiers plus une voix, donc c'était un petit peu juste, par rapport à la majorité des deux tiers bien sûr, l'ONU a décidé le partage en deux, pour être très précis, en trois, un État juif qui prendrait le nom qu'il souhaiterait, ce sera Israël, sur 55% du territoire, là où la présence juive, amenée par les organisations sionistes depuis le 19e siècle, avec la bénédiction de l'Empire ottoman, puis de la Grande-Bretagne, là où la présence juive était la plus importante, un État arabe qui prendra le nom qu'il voudra sur environ 42% du territoire, la ville de Jérusalem et ses environs, en incluant Bethléem, formant ce qu'on appelle en droit un corpus separatum, une entité à part qui serait administrée directement par l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Ce plan n'est jamais entré en vigueur. C'est la première et quasiment la dernière prise de position de la communauté internationale sur cette question. N'est jamais entré en vigueur. Il est significatif d'ailleurs qu'aucun des protagonistes actuels de la question n'en parle. Le Hamas dit qu'Israël doit disparaître et que les Arabes doivent récupérer l'ensemble de l'ancienne Palestine britannique. Les Palestiniens de l'OLP, du Fatah, parti d'Arafat, eux revendiquent ce que vous avez là, c'est-à-dire un territoire beaucoup plus petit en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Est, que les 42% qui leur avaient été promis par le vote de l'Assemblée Générale. Ça n'est jamais entré en vigueur pour une raison simple, c'est que le 15 mai 1948, l'État d'Israël, alors la Grande-Bretagne ramène le drapeau, etc. Bon. Les organisations juives proclament un État juif sous le nom d'État d'Israël, et en face, les Arabes ne proclament aucun État. Je n'aime pas faire de la politique fiction, mais si les Arabes de Palestine avaient proclamé leur État, comme le droit ONU leur en donnait la possibilité à l'époque, aujourd'hui, ils seraient à la tête d'un territoire qui ferait 42% de la Palestine. Ils ne le proclament pas, et tous les États arabes voisins d'Israël attaquent le jeune État d'Israël qui a quelques heures. C'est la première guerre israélo-arabe, qui va durer jusqu'en 49. Autrement dit, c'est un État qui, au premier jour de son apparition dans la communauté des États internationaux, a dû subir une guerre de la part de ses voisins, et avec naturellement le soutien d'un certain nombre de milices arabes-palestiniennes présentes sur place. Cette première guerre a été gagnée par Israël en 1949. La guerre ne s'est pas terminée par un traité de paix, mais par un armistice qui met fin aux hostilités, mais qui, à la différence d'un traité de paix, ne règle pas la question sur le fond. Et à l'issue de cette guerre, la ligne d'armistice est passée dans ce que vous avez ici, au tableau, et puis la bande de Gaza, c'est-à-dire qu'Israël est passé de 55% du territoire à 78%. Simple à retenir, c'est la moitié du reste, en plus. Est passé de 55 à 78% du territoire. Et vous allez me dire, et les 22% restants, à savoir bande de Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est. Et bien sur les 22% restants, vous imaginez bien que les Arabes palestiniens, qui n'avaient déjà pas proclamé leur indépendance l'année précédente, parce qu'ils contestaient le principe même d'existence d'un État d'Israël sur ce qu'ils estimaient être leur terre, vous imaginez bien, s'ils n'ont pas proclamé un État sur 42% du sol, ils ne vont pas un an après, et après une défaite militaire, proclamer leur État sur 22% du territoire. Et la conséquence que ça a eue, c'est que la bande de Gaza, au lieu de former une partie d'un État palestinien, a été administrée par l'Égypte. Et dans l'esprit de l'Égypte d'ailleurs, très durablement. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, par le royaume de Jordanie. Enfin, par le royaume de Transjordanie, qui à cette occasion, comme il contrôle désormais les deux rives du Jourdain, la Trans et la Cisjordanie prend le nom de Jordanie tout court. Toujours pas d'État arabe palestinien de proclamer. Je vous passe le détail de toutes les guerres israélo-arabes, environ une par décennie, qui ont suivi. Sauf une, parce qu'elle nous intéresse ce soir, c'est la guerre des six jours de 1967. En 1967, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, dont le nom n'est pas sur la carte, mais qui est ici. L'Égypte, la Jordanie et la Syrie préparent une attaque contre Israël, une guerre de revanche. Le panarabisme, incarné par la figure du président Nasser, soude les différences entre tous les États arabes par la dénonciation de l'ennemi sioniste, c'est-à-dire Israël. C'est un peu ce qui lui sert de ciment. Bon, donc on prépare la guerre de revanche par rapport à celle de 48-49. Israël, au courant de la manœuvre, décide d'attaquer préventivement. C'est le concept de guerre préventive. Donc décide d'attaquer préventivement. En six jours, les armées de ces trois États arabes sont écrasées. Conséquences territoriales, l'État d'Israël passe de 78 à 100% du territoire de la Palestine ex-britannique, donc occupe Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Et si j'ose dire plus de 100%, puisque des territoires non palestiniens sont occupés par Israël, le désert du Sinaï égyptien jusqu'au canal de Suez, occupé par l'armée israélienne, occupé et avec un début de colonisation humaine, le plateau du Golan, tout à fait en haut, qui était territoire syrien, qui n'était pas palestinien, qui était territoire syrien, et qui lui sera non seulement occupé et colonisé, mais même en 1981 annexé par l'État d'Israël, par une loi de la Knesset, par une loi du Parlement israélien. Bon. Qu'est-ce qui va se passer dans les territoires occupés, indépendamment de l'administration militaire? Il va se passer quelque chose qui est en fait au cœur du problème actuel. C'est-à-dire qu'à l'administration militaire, les Israéliens vont joindre la colonisation humaine. Autrement dit, une volonté de modifier, voire d'inverser les équilibres ethniques et communautaires pour rendre l'occupation militaire durable, définitive ou éventuellement échangeable contre un traité de paix avec les États arabes et une reconnaissance de l'État d'Israël par les États arabes. Une monnaie d'échange ou une implantation durable ou pour certains une implantation définitive, le grand Israël de la Bible, qui d'ailleurs de toute façon n'avait pas cette forme-là, mais peu importe. Bon, cette colonisation va mener à une nouvelle guerre israélo-arabe, la guerre du Kippour. En 1973, cette fois-ci les Arabes, mais il n'y a plus la Jordanie, il y a l'Égypte et la Syrie, attaquent Israël par surprise. Et on peut faire le parallèle avec les événements du 7 octobre, d'abord parce que c'est le 6 octobre que ça se passe. Le Hamas n'a pas choisi la date par hasard. Une attaque par surprise destinée à détruire le mythe de l'invincibilité militaire de l'État israélien. On peut vraiment faire le parallèle. Pendant une semaine, et pour la première fois dans l'histoire des guerres israélo-arabes, l'armée israélienne vacille. Et pendant une semaine, ça se passe très mal. Et il y a même la crainte pendant une semaine que l'État d'Israël ne disparaisse complètement sous le coup de cette attaque surprise. C'est l'ambiance de l'époque. Et puis au bout d'une semaine, l'armée israélienne rétablit la situation et la guerre se termine. Ça aussi, c'est une première. Non pas par un nouveau gain de territoire par Israël, mais par un statu quo territorial. Israël ne gagne rien, Israël ne perd rien de ses territoires occupés. La diplomatie américaine, et en particulier celle de Henry Kissinger, qui vient de nous quitter à 100 ans, la diplomatie américaine se met en route et transforme cette guerre en paix séparée israélo-égyptienne. C'est ce qu'on appelle les accords de Camp David, en 78-79. Pour la première fois, un État arabe signe la paix avec ce qui la veille était encore appelé l'ennemi sioniste. C'est le premier traité de paix israélo-arabe. Il se fait sur la base suivante. Israël rend un territoire, le Sinaï égyptien. Les quelques colons, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même plusieurs milliers. Les colons juifs installés doivent déménager. Et souvent d'ailleurs à leur corps défendant, on leur envoie l'armée israélienne pour les faire partir s'ils refusent d'obtempérer. On rend l'ensemble du Sinaï par étapes à l'Égypte. En échange, l'Égypte est en paix avec Israël, reconnaît l'État d'Israël dans ses frontières d'avant 1967. Il n'est pas question des frontières du plan de partage de 1947, c'est-à-dire reconnaît Israël sur 78% du territoire de la Palestine. Vous voyez venir le loup. L'Égypte signe la paix pour récupérer des territoires, pour être en paix, et puis pour recevoir un gros chèque de la part de la Pax Americana, de la part des États-Unis, et un gros chèque chaque année. L'Égypte est le deuxième bénéficiaire mondial d'aide financière états-unienne pour l'armée d'un pays. Le premier étant naturellement Israël, et l'Égypte vient tout de suite après. Donc il y a un deal qui est fait sur cette base-là et qui fonctionne, et qui permet à l'État d'Israël de dire aux autres États « Vous pouvez faire la même chose avec nous. On est apte à signer des accords sur des compromis territoriaux. Vous voyez comment ça se passe avec l'Égypte, ça sert de leçon de choses. On peut faire ça. Si vous êtes tenté par ce type d'accord, puis si vous êtes tenté aussi par les dollars américains qui vont tomber, ça on peut faire. Petit loup dans cette affaire. Quand l'Égypte signe le traité de paix, la question palestinienne est passée en pertes et profits. C'est-à-dire que les Égyptiens ont joué leur carte. Et ils l'ont plutôt bien joué. Mais la question palestinienne, c'est d'ailleurs, je vous le signale, un petit peu le début de la fin pour le panarabisme. La grande solidarité panarabe en prend un coup dans l'aile. À partir de là, en fait, du tournant, c'était un petit peu antérieur, mais j'y reviendrai, du tournant des années 60-70, l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée depuis 69 par Yasser Arafat, va comprendre que le salut des Palestiniens ne passe plus par une xième guerre israélo-arabe. D'abord parce que les Arabes sont infoutus de la gagner, et deuxièmement parce qu'ils n'en ont rien à faire de la cause palestinienne. Pour un plat de lentilles qui s'appelle le Sinaï, ils sont prêts à signer un accord avec l'ennemi sioniste. Arafat et la nouvelle direction de l'Organisation de libération de la Palestine comprennent ça et font passer le problème d'une question de Palestine à une question palestinienne. Ils désarabisent la question, que ce ne soit plus un conflit interétatique entre pays, parce que là c'est sans issue, et puis les États arabes les uns après les autres se retireront. Il faut en faire un conflit asymétrique de décolonisation. De conflits interétatiques et ayant en plus des caractéristiques est-ouest dans la guerre froide, beaucoup d'États arabes étant soutenus par l'URSS. De ce type de conflit que nous, Palestiniens, nous ne gagnerons jamais, les Arabes n'en ayant d'ailleurs, les États arabes n'en ayant pas grand-chose à faire de nous, nous allons passer à une autre histoire qui a également commencé en 1945, qui est celle de la décolonisation. Nous allons passer à un conflit de guérilla. Nous allons passer à un conflit de guerre asymétrique. Nous allons passer à un conflit qui mobilise la population civile, qui n'attend pas son salut de je ne sais quel État arabe. Ils finiront par tous nous trahir. Mais on va passer à un conflit nord-sud. Et le génie politique d'Arafat est d'avoir compris, en regardant l'évolution des relations internationales depuis 1945, c'est que dans le cas d'un conflit asymétrique, l'armée d'un État, une guérilla, plus ou moins populaire, c'est toujours le petit qui gagne. Expérimenté en Indochine, la France en sait quelque chose, entre 1946 et 1954, et re-expérimenté par la France lors de la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962, la guérilla, ce qu'on appelle le conflit asymétrique, la guérilla à cette vertu. 1. D'attirer sur vous la sympathie de la communauté internationale. Le petit est la victime. 2. De pousser le grand, l'État colonial, à la faute. Le premier gamin de 12 ans palestinien qui va être tué dans cette guérilla, il va mettre une pièce de plus dans la machine palestinienne aux yeux de la communauté internationale. Je vous signale que c'est aussi une des fonctions du terrorisme. C'est de pousser l'adversaire à la faute. Vous savez, c'est... Allez, je commets un attentat horrible. Viens me chercher. Viens. Et surtout, tape fort. Ah, et puis surtout, tue des civils. Et là, tu es foutu. Voilà, c'est toute cette leçon politique que les dirigeants palestiniens, Arafat en tête, ont compris à l'époque. J'ajoute qu'il y a une dernière vertu pour la guerre de guérilla, c'est qu'elle crée une conscience nationale. Car Arafat, comme les autres, savent que le peuple palestinien, la nation palestinienne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En 1947-48, ça n'existe pas. L'une des raisons pour lesquelles les Palestiniens ne proclament pas leur indépendance, c'est qu'il n'y a pas de peuple palestinien. On est à une échelle de son clan, de sa tribu. À une autre échelle, on est du monde arabe. Encore à une autre échelle, on est de l'Oumma, de la communauté des croyants musulmans. Mais cette étape intermédiaire de conscience nationale au sens européen du terme, ça n'existe pas. C'est dans la lutte armée, asymétrique, et qui prend la forme d'une guérilla, qu'on crée une conscience nationale. Le gamin de 12 ans, le premier qui tombe et dont je vous parlais, lui va commencer à créer un grand récit national palestinien, avec ses martyrs, avec son histoire, avec ses temps forts. Les nations sont des créations politiques. Ce ne sont pas des données naturelles ou génétiques. C'est quelque chose qui se façonne, qui se construit, qui d'ailleurs aussi peut se défaire. Par la lutte armée, et ça c'est l'exemple du FLN algérien, parce qu'il n'y a pas de nation algérienne en 1954, en revanche en 1962 je peux vous dire qu'il y en a une. Et c'est l'armée française qui a contribué à la créer. Il faut faire jouer par l'État colonial le rôle de l'idiot utile, celui qui va vous créer votre propre conscience nationale par le plus de répression possible, si on peut le faire. Ça, c'est la stratégie d'Arafat. Mode opératoire, attentats internationaux. Là, il faut que tout le monde entende parler de la cause palestinienne. Alors, vous allez me dire, oui, mais des attentats, des prises d'otages, dans des détournements d'avions, ça, c'est très années 70, ça. Les détournements d'avions, les prises d'otages dans les ambassades, qui se terminent, la prise d'otages aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, où la délégation israélienne est décimée, etc. C'est d'ailleurs pas fait par Arafat, c'est fait par un groupe dissident de l'OLP qui s'appelle Septembre Noir, mais peu importe. Vous allez me dire, c'est pas terrible quand même, parce que l'image qui en ressort est d'être des terroristes. Je vais raisonner en termes de marketing politique, et vous en excuserez du même coup le cynisme. Le principal n'est pas que vous soyez bien ou mal vu. Le principal, c'est que vous soyez vu. C'est qu'on vous repère. C'est que désormais on dise, mais c'est quoi cette cause palestinienne? Attendez, je vais ouvrir un livre, je vais acheter des journaux. Mais c'est qui ces gens qui tuent des gens dans des attentats terroristes, dans des prises d'otages, etc. Mais d'où ça vient? Pourquoi ces gens-là nous empêchent de dormir? C'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est exactement ce qu'attend le mouvement palestinien. Y compris, ça peut vous sembler paradoxal, y compris par des actes monstrueux. On rappelle son existence et son rôle d'empêcheur de tourner en rond ou de se coucher tranquille le soir. Et donc, dans l'esprit de l'opinion mondiale, ah ouais, leurs méthodes sont dégueulasses. Mais vu leur capacité de déstabilisation, qui vont peut-être arriver chez nous, il faut régler le problème. Voilà. C'est très précisément ce qui est attendu. Qu'un peuple palestinien, qu'une cause palestinienne soit identifiée et qu'elle soit surtout pas ramenée au conflit interétatique israélo-arabe. un petit peuple en lutte pour sa décolonisation. Est-ce que tu peux, Ariane, montrer la carte 2, enfin pardon, oui, la carte 2. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est une petite leçon de choses géopolitiques. Voilà, regardez cette carte. Par rapport à la précédente, aucune des deux cartes ne ment, hein. Elles indiquent les mêmes choses, mais elles ne sont pas à la même échelle. Jusqu'au début des années 70, la question, c'est le problème israélo-arabe. Autrement dit, regardez, petit Israël, peuplé en grande partie par les survivants de la Shoah, dans un océan terrestre arabe hostile. Sympathie de l'opinion mondiale pour le petit État d'Israël. La carte numéro 1, à présent, celle de départ. Grand Israël, petit peuple palestinien en lutte pour son indépendance dans le cadre de la décolonisation. Aucune des deux cartes ne ment, mais les échelles sont des discours politiques. Voilà. Si l'opinion mondiale passe de la carte précédente à cette carte, alors la cause palestinienne aura gagné. Israël ne sera pas dans le sens de l'histoire, Israël sera du côté des puissances colonialistes et l'organisation de libération de la Palestine, les fédéines palestiniens, Akefiers, etc., seront dans le sens des guérilleros, plus ou moins romantiques, mais qui finissent à la fin par gagner, par imposer l'indépendance et la décolonisation. La question de Palestine devient une question palestinienne. Le résultat ne se fait pas attendre, si j'ose dire, un peu quand même. En 1993 sont signés les accords d'Oslo-Washington. C'est une Pax Americana, c'est sous médiation du président américain Clinton. Et là, c'est un camp David, mais alors impensable encore 10 ans avant. C'est-à-dire que l'État d'Israël signe un accord de paix, pas avec un pays, mais avec l'Organisation de libération de la Palestine, qui, un mois avant, était classée dans la loi israélienne parmi les organisations terroristes. Et un mois après, c'est un interlocuteur quasi-étatique ou proto-étatique qui est à la table des négociations et qui, sur un pied d'égalité avec la médiation états-unienne, signe un accord de paix. Normalement, la question palestinienne aurait dû être réglée par cet accord. L'accord prévoit quoi? L'Organisation de libération de la Palestine est reconnue par Israël, je cite le texte, comme représentante légitime du peuple palestinien. Représentant légitime, c'est important pour l'OLP, du peuple palestinien. Ça signifie la victoire de l'agenda OLP Yasser Arafat dont je vous parlais il y a 2 minutes. Ah oui, il n'y a pas des Arabes en Palestine. Il y a un peuple palestinien distinct. En contrepartie, l'OLP reconnaît l'État d'Israël. Dans sa charte quelques années auparavant, il y avait comme pour le Hamas à l'heure actuelle, la destruction de l'État d'Israël. L'OLP reconnaît l'État d'Israël et pas dans les frontières du plan de partage de 1947, dans ses frontières d'avant 1967, c'est-à-dire sur 78% du sol de la Palestine. Dernière disposition des accords d'Oslo-Washington, et là aussi il y a un loup, c'est qu'on ne crée pas tout de suite un État palestinien. Les Américains, les Israéliens, et peut-être aussi les Palestiniens, estiment tous les trois que c'est prématuré. Pour Yasser Arafat, ça veut dire passer de chef de guérilla ou de chef d'organisation terroriste à chef d'État. Pas forcément envie, ça ne s'improvise pas, et l'expérience montrera d'ailleurs qu'il n'était pas du tout fait pour ça. Chez les Israéliens, chez Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien qui a signé les accords, faire passer à son opinion publique tout de suite la création d'un État dirigé par une organisation qui, un mois encore, était qualifiée terroriste, il va falloir y aller progressivement. Les Américains estiment aussi que faut donner du temps au temps. Alors qu'est-ce qu'on prévoit ? On prévoit la création d'une autorité autonome palestinienne, une sorte de gouvernement autonome local, un parlement local qui s'appelle le Conseil législatif, etc., qui va gérer, non pas tout de suite, l'ensemble des territoires occupés, mais petit morceau par petit morceau, des territoires qu'Israël va lui céder en se retirant, à charge pour l'OLP de faire la preuve qu'elle était capable de gérer un proto-État et en pleine sécurité pour Israël. Autrement dit, faites vos preuves morceau par morceau, et au fur et à mesure, si vous nous inspirez confiance, eh ben on évacuera davantage de territoires. Évacuer davantage de territoires pour aller jusqu'où ? Le texte ne le dit pas. Ça, c'est la diplomatie à l'américaine. On ne fiche pas l'avenir. On fait du process. On verra où ça nous mènera. Et quel sera le statut définitif des territoires occupés ? Pas un mot n'est dit là-dessus. État souverain ou pas ? État souverain armé, démilitarisé ? État pleinement souverain ou pas ? Rien n'est dit. C'est, on peut faire le parallèle, hein, et c'est pas pour rien que ce sont des pro-américains qui ont fait les débuts de la construction européenne. C'est comme la construction européenne. On ne sait pas où on va, mais le but, comme c'est la devise des chevaliers de la table ronde, le but, c'est pas le but. Le but, c'est le chemin. On avance. On crée de la confiance. On crée du partenariat. On dialogue. On découvre que finalement, on n'est peut-être pas des ennemis héréditaires. Dieu sait où ça nous mènera. Mais à chaque fois, on construit. Mais surtout sans s'enfermer dans une sorte de doctrine ou de statut final, si vous voulez, qui bouclerait le truc. Ça, un statut final réglé par une grande conférence internationale, c'est la diplomatie à la française. Très clairement. Les Américains, c'est pas du tout ça. Sauf quand ils y sont contraints. C'est le deal, vous savez, c'est top là. Bon, la sécurité, là, elle sera assurée par qui ? Les réserves en eau, elles seront pour qui ? On peut au moins se mettre d'accord là-dessus ? Top là. J'ai coutume de dire à mes étudiants, c'est un petit peu imagé, mais c'est pour qu'ils comprennent bien, il y a des ennemis qui s'affrontent dans une crise géopolitique, une guerre, ils s'en veulent à mort. Chacun rêve de l'extermination de l'autre, enfin, voyez le genre. Les Américains arrivent, ils arrivent, bon, ils ont juste une mallette, hein, qui est pleine de dollars. Ce que je dis est imagé, naturellement. Hein. Ils arrivent, une mallette pleine de dollars. Bah, si vous signez la paix, il pourra y avoir des petites récompenses. Et vous savez, il y en a d'autres. Hein. Voilà. Donc, ils arrivent. Il dit, bon, les gars, vous aimez pas. Hein. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la température de cette pièce soit à 21 degrés ? Ouais. Alors, les deux, ouais. Bon, bah, c'est bon pour aujourd'hui. On s'est mis d'accord sur un point. Je caricature. Mais c'est un peu ça. Parce qu'à partir du moment où on se met d'accord sur quelques détails qui ne règlent pas le fond de l'affaire, on crée un climat de dialogue, ou de confiance, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas de dialogue déjà, plus tard peut-être de confiance, et on avance, et on avance, et on avance. Hein ? Voilà, puis le deuxième jour, on discute des fauteuils, de la taille de la table. Pour les Américains, l'enfer est dans les détails. Hein. Ouais. On peut toper là-dessus, sur la taille de la table. Ok, on top. Bon, bah ça va, la séance de négociation est terminée pour aujourd'hui. Hein, puis on se revoit demain. Hein. Vous auriez besoin d'argent, par hasard ? Vous avez un petit prêt du FMI, peut vous arranger ça. Bon, je caricature. Mais c'est un gros comme ça que ça se passe. Hein. Diplomatie française, complètement différent. Voilà. Grande conférence internationale, avec des discours de trois plombes, si vous voulez. Les affaires étrangères qui citent Héraclite tout le temps. Si vous voulez, la mèche au vent. Non, mais c'est une toute autre conception. Puis alors, c'est beaucoup plus exigeant au départ. Hein. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite aborder le fond du problème. Puis alors, de façon très cartésienne. Hein. Et puis, quand on sortira de la salle, faudra avoir absolument tout réglé. La méthode américaine, et surtout celle de Kissinger, c'est exactement l'inverse. Avantage, vous le voyez bien, on crée un process, on crée un processus de dialogue et de négociation. Ça, c'est l'avantage, qui peut éventuellement déboucher sur de la confiance à terme. Inconvénient, parce qu'il y a quand même chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, inconvénient, on met la poussière sous le tapis en ce qui concerne les questions de fond. Et l'inconvénient de l'inconvénient, c'est qu'à mettre la poussière sous le tapis, il y a un moment on peut avoir la tentation d'oublier la poussière. Ça, c'est l'inconvénient de la méthode américaine. On crée un process, alors ça, il ne jure que par ça. Le fond de l'affaire, écoutez, on verra plus tard. Et puis un jour, plus tard, on pourrait peut-être oublier. Finalement, on a besoin de discuter encore du fond de l'affaire. Regardez comme on est bien là. On est en paix, on dialogue. Chacun est arrivé à des accords partiels, temporaires, intérimaires. Pas mal, hein? C'est pas mal. Faut un État palestinien? Finalement, s'il y a la paix sur le terrain, c'est l'essentiel, hein? Mais les questions qui fâchent, le plus tard possible, et le plus tard possible, ça peut être jamais. C'est presque un trait psychologique de caractères humains que nous connaissons tous, hein, les gens qui veulent régler tout de suite le problème au fond, et d'autres qui disent qu'il faut donner du temps au temps. Voilà. Chacune des deux méthodes, chacun des deux caractères a d'ailleurs son avantage. Donc cette question, elle commençait avec les accords d'Oslo-Washington à sortir des écrans radars. Elle commençait à sortir. L'opinion publique mondiale se disait, poignée de main spectaculaire entre le Premier ministre israélien Rabin et Yasser Arafat, l'homme au kéfié, le guérillero, hein, le Castro de la cause palestinienne, hein, ou le Guevara de la cause palestinienne. Ah bah finalement, ils se sont serrés la main sur la pelouse de la Maison Blanche, et puis pour... La troisième poignée de main, c'est Bill Clinton, hilar, qui a fait ses deux mandats présidentiels aux États-Unis dans un contexte à la fois géoéconomique ou géopolitique où il était globalement verni, quoi. Bill Clinton, c'est l'homme qui transforme en or tout ce qui touche. Il n'y est pas vraiment pour quelque chose, mais il est là au bon moment. Et puis ça se passe bien, donc il est toujours détendu, il est toujours hilar. Tout ça est sanctionné à la fin de l'année par des prix Nobel de la paix, etc. Enfin, tout va très bien. Petite ombre au tableau qui aurait déjà dû mettre la puce à l'oreille, Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste de droite israélien qui trouve que l'accord signé avec l'OLP est une trahison. Ah tiens, il y a une extrême droite israélienne. Ah oui, il y en a une et puis elle est en action. Hein. Elle a quand même fait un carton sur le Premier ministre, prix Nobel de la paix. Hein. Bon, les gouvernements qui succèdent à Yitzhak Rabin donnent l'impression de vouloir appliquer. Et puis, petit à petit, le conflit, alors, ne disparaît pas totalement. De temps en temps, Israël mène des mini-guerres contre le Hamas à Gaza, contre le Hezbollah au Liban. C'est très court, ça fait pas beaucoup, enfin, ça fait des morts, mais pas énormément. C'est ce qu'on pourrait appeler des conflits de moyenne intensité. C'est très court. Rien à voir avec les grands conflits. La guerre du Kippour a quand même été à l'origine du choc pétrolier. La décision des pays OPEP de quadrupler les prix du baril. Enfin, il y a une répercussion internationale. Là, ce sont, excusez-moi parce que ça fait des morts quand même, mais ce sont des mini-conflits, si vous voulez. C'est-à-dire que le conflit descend comme un soufflet, progressivement. En 2005, les Israéliens décident d'évacuer la bande de Gaza dans le cadre de l'application des accords d'Oslo-Washington. Voilà. Liés aux Palestiniens, ben, allez-y. Faites votre preuve. Sur ces 460 km² qui ont la plus grosse densité de population du monde, et de chômage, et de pauvreté. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous savez, c'est pas en géopolitique, un cadeau empoisonné. Ah, vous voulez créer un État? Ah, ben, on va voir de quoi vous êtes capable. Tiens, vous allez vous occuper de Gaza. Allez, c'est... comme si l'armée allemande avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite progressivement disent aux Français, bon allez, on va vous rendre des petits territoires en pleine souveraineté, hein, on va commencer par les Ardennes. Hein, c'est bien les Ardennes, hein, puis c'est riche les Ardennes, hein, ou la Creuse. Enfin, voilà, c'est, voilà, vous allez. Alors là, c'est pas surpeuplé, c'est plutôt sous-peuplé, c'est le problème inverse. Tiens, comme ça, vous allez faire la preuve de savoir que vous êtes capable de diriger un État. Hein. Alors nous, ce qu'on vous offre, hein, avec le paquet cadeau, c'est la bande de Gaza. Hein, et bon courage, hein, parce que nous, notre armée nous dit que c'est l'enfer là-bas. Donc voilà, à vous. Bon, en 2006, des élections législatives sont organisées dans les territoires autonomes de Palestine, y compris à Gaza. Ah, surprise. C'est pas l'OLP historique qui gagne, c'est le Hamas, dont le nom signifie à la fois espoir et en même temps est l'acronyme de Mouvement de la Résistance Islamique. Des gens qui au départ ont dénoncé la trahison de l'OLP dans la signature des accords d'Oslo-Washington et qui depuis 10 ans disent « Mais il est où l'État palestinien qu'on nous avait promis? Il n'existe toujours pas 10 ans après. Vous, OLP, vous vous êtes fait rouler dans la farine par les Israéliens. Il est temps qu'il y ait un mouvement palestinien plus radical qui arrache aux Israéliens la création d'un État. » Ce sont des élections démocratiques dans les territoires palestiniens. Je vous signale, ce sont les dernières. Donc l'état de l'opinion palestinienne, nous ne le connaissons pas depuis 2006. Nous ne savons pas si les Palestiniens et jusqu'à quel point soutiennent le Hamas aujourd'hui. Mon interrogation n'est pas théorique. Hein. Très concrètement, on ne sait pas. La dernière consultation démocratique qu'on a en stock, c'est 2006. Le Hamas arrive en tête avec 43% des voix. Et avec le mode de scrutin qui est mi-majoritaire, mi-proportionnel, il rafle la majorité absolue des sièges. Le parti historique de Yasser Arafat est battu. Il est battu parce que depuis 10 ans, ce brillant chef politique et de guerre est un minable chef de proto-État. Clanisme, clientélisme, corruption. Pour résumer un peu. L'image historique charismatique d'Arafat chez les Palestiniens baisse. Ah, jusqu'en 1994, on l'adorait. À partir du moment où il a dû prendre en charge de l'administration d'un proto-État, d'un futur État, nullissime. Nullissime et corrompu. Voilà. Le Hamas se présente comme un parti pas seulement islamiste, radical, je veux dire au niveau politico-religieux, c'est-à-dire intégriste, si vous voulez. Parce que là, il n'aurait pas fait 43%. Il se présente comme un mouvement patriote qui, lui, ne négociera pas avec Israël, mais créera un rapport de force pour arracher à Israël l'indépendance de la Palestine. Et troisièmement, comme un parti justicialiste en termes de gouvernance politique et socio-économique. À la différence de toute cette bande de corrompus de l'autorité autonome palestinienne qui est de plus en plus démonétisée. En 2007, une révolution de palais au sein des Palestiniens évince le Hamas de Cisjordanie et le cantonne à la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'on fait fi du résultat des élections. L'OLP fait un coup d'État aidé par les services secrets israéliens et on vire le Hamas. Et il se replie dans la bande de Gaza qu'il contrôle par sa milice assez bien militairement, ce qui était moins le cas en Cisjordanie. Et donc à la tête de la Cisjordanie depuis 2007, il y a un pouvoir qui n'a aucune légitimité démocratique et qui, après la mort d'Arafat en 2004, continue d'ailleurs à être clientéliste et corrompu, et représenté par le très vieux aujourd'hui Mahmoud Abbas, 88 ans, à peu près aussi âgé que corrompu, enfin, c'est... Alors, il n'y a pas de sondage, il n'y a pas d'élection démocratique, mais il est évident qu'il ne pèse pas grand-chose dans l'opinion palestinienne. Alors, pas grand-chose, c'est combien en pourcentage? Je suis incapable de vous le dire. Mais il ne pèse pas grand-chose. Combien symétriquement pèse le Hamas? Je suis incapable de vous le dire. Je suis incapable de vous le dire. Et puis alors, en plus, si j'étais capable de vous le dire, je pourrais éventuellement vous le dire avant le 7 octobre. Mais depuis le 7 octobre, où par son action terroriste monstrueuse, le Hamas a provoqué une intervention militaire israélienne qui tue 24 000 Palestiniens dans la bande de Gaza, quelque chose me dit que rationnellement, sa cote doit descendre chez les Palestiniens de la bande de Gaza. Ce qui ne veut pas dire que sa cote ne remonte pas en Cisjordanie. Allez, courageux, eux au moins, ils ont osé affronter. Mais je n'ai aucune base chiffrée pour vous dire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Y avait-il des raisons, je termine cette première partie rapidement, y avait-il des raisons de penser que finalement, c'était clos? Le Hamas gérait Gaza, passez-moi l'expression, le trou du cul du monde, l'endroit où il ne faut pas être, en matière socio-économique, en matière médicale, en matière scolaire, enfin, c'est épouvantable. Épouvantable. C'est proprement ingérable. Donc le Hamas est cantonné avec le mistigris, là, dans la bande de Gaza. De temps en temps, il y a des tirs de roquettes sur Israël, mais là, on est dans de l'affrontement de très très basse intensité, au regard de ce qu'on a connu. Et en Cisjordanie, il se passe quoi? L'autorité palestinienne administre 40% de la Cisjordanie. Les 60 autres pourcents, les accords d'Oslo-Washington sont bloqués, moribonds. Les 60 autres pourcents restent sous administration israélienne. Voilà. Et vous avez sur la carte là un plan de paix, qui était le plan Trump de 2020, qui prévoyait, regardez bien, eh bien de... comment vous dire ? Allez, de donner aux Palestiniens un petit peu plus que 40% de leur futur État, mais de réunir à l'État d'Israël les blocs de colonies où les colons juifs étaient présents, et de les relier et de les rattacher au futur État israélien. Autrement dit, de créer ce qu'on a appelé un État léopard palestinien, non jointif, tronçonné par des murs de sécurité reliant deux blocs de colonies entre elles, un état de taches de léopard, si vous voulez, dont la carte donne une petite indication. Ce plan Trump n'a naturellement pas été accepté par les Palestiniens. Bien. Qu'est-ce qu'on avait comme raison de penser que tout ça, ça ne créerait plus de violence et que ça s'en allait? Trois choses. La première, c'est que la principale organisation représentante historique du peuple palestinien, l'OLP, était complètement déconsidérée auprès des Palestiniens et de la communauté internationale. Autrement dit, l'OLP, l'autorité autonome palestinienne, était devenue une machine à prouver que les Palestiniens n'étaient pas capables de gérer un État. Ou alors que les trois C hein, qu'on retrouve en Afrique, au Moyen-Orient, dans d'autres pays, clanisme, clientélisme, corruption. Autrement dit, ce serait un État, un simili-État. Première raison de penser que la question palestinienne ne se pose plus, que la question d'un État palestinien ne se pose plus. Ils ne font pas leur preuve à gérer un État. Et d'ailleurs, sont-ils seulement encore une nation? Divisés qu'ils sont entre Gaza et la Cisjordanie, entre le Hamas et l'OLP. Ils ne peuvent pas gérer un État. Ils ne sont plus une nation comme du temps d'Arafat. Voilà, mais c'est dit, hein. Il n'y aura pas d'État palestinien. Il n'y aura pas la solution à deux États. Il y aura un statu quo qui se prolongera. Bon. Deuxième raison de croire que c'est réglé, c'est qu'Israël se met, et ça c'est l'un des rares succès de la diplomatie de Trump, j'ai vu que vous souriez quand je parlais du plan de paix de Trump, parce que c'est presque un oxymore, mais en réalité, le succès de la diplomatie de Trump, c'est les accords d'Abraham de 2020. C'est-à-dire que les États-Unis et Israël ont réussi à reproduire le phénomène Camp David, traité de paix séparé, avec quatre nouveaux États arabes. Alors certes, pas de la proximité immédiate avec la Palestine, mais des États arabes qui comptent. Hein. Il y avait Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Maroc. Voilà. Et quatre de plus États arabes qui rompent la solidarité arabe, anti-sioniste, pro-palestinienne, et qui signent un accord de paix avec Israël. Ça fait 4, plus l'Égypte, depuis les accords de Camp David, ça fait 5, et je ne vous ai pas parlé, après les accords d'Oslo-Washington, de la Jordanie, qui avait signé un traité de paix avec Israël. Et ça fait 6. Israël est en paix avec l'OLP, même discrédité chez les Palestiniens. Israël est en paix avec la Jordanie. Israël est en paix avec l'Égypte, et de façon plus éloignée avec les 4 d'Abraham, dont je vous ai parlé. Et surtout, le processus n'est pas terminé. L'Arabie Saoudite est en négociation. Alors là, ça aurait été le big one. Et peut-être, et probablement encore, mais ça on en reparlera. Et l'Arabie Saoudite est en négociation. Le prince héritier, hein, Mohamed Ben Salman, très très actif, parce que le vieux roi Salman n'a plus les capacités pour gouverner, donc c'est le dauphin, c'est Mohamed Ben Salman, qui gère ça, et qui ne fait pas mystère qu'il a très envie d'arriver à un accord de paix et à une normalisation des relations avec Israël. Autrement dit, par petits paquets, Israël et l'administration américaine débauchent, si j'ose dire, des États arabes, et les retirent d'une future éventuelle coalition arabe au nom de la cause palestinienne. C'est vous dire que ces 6 pays que j'ai cités ne croient plus en la cause palestinienne. Et que pour eux, c'est sorti des écrans radars. Il y avait donc des raisons rationnelles, la veille du 7 octobre, de penser que cette question palestinienne était en train de disparaître. Surtout qu'il y avait une dernière raison pour le penser, c'est que le problème géopolitique majeur au Moyen-Orient n'était plus du tout la question israélo-palestinienne, mais la lutte entre deux puissances régionales et la lutte à mort entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et que c'était ça le devant de l'actualité. La volonté, je veux bien la carte numéro 2, la volonté de l'Iran de constituer, alors ce que les journalistes ont appelé un arc chiite. Un arc chiite, autrement dit, vous le savez, une des deux variétés de l'islam. Hein, qui ne représente que 10% de la population musulmane mondiale, les autres étant les sunnites, 10%, et cet arc chiite, ce serait l'Iran, peuplé à 90% de chiites, et en plus régime politique islamiste, en fait entre les mains des ayatollahs, hein, entre les mains des dignitaires religieux, l'Irak, qui est peuplé à 65% de chiites, que paradoxalement les Américains ont installé au pouvoir après leur intervention en Irak en 2003, quand ils ont viré le sunnite Saddam Hussein, qui persécutait les chiites. Les Américains installent la majorité chiite au pouvoir. Bah, inutile de vous dire que les chiites ont fait aux sunnites ce que les sunnites leur avaient un petit peu fait avant. Et le résultat, c'est que l'emprise de l'Iran, en tout cas sur une partie de l'Irak, est assez forte. Je continue l'arc chiite, la Syrie, du sympathique Bachar el-Assad, vous savez, avec toute la dynastie des Assad, son père déjà, qui, hein, bouché de père en fils depuis 1970, hein, qui règne et de façon sanguinaire sur la Syrie, mais qui ont de vrais amis, hein, dans la classe politique française. Donc, Bachar el-Assad en Syrie. Alors, la Syrie, vous allez me dire, c'est 90% sunnite. Ça ne marche pas dans vos cartes chiites. Et oui, mais la famille Assad appartient à la minorité alaouite, une branche du chiisme, en Syrie. Donc ils peuvent, en tant que pouvoir politique, pas majorité de la population, appartenir à l'arc chiite. Je prolonge l'arc chiite. Le Liban, là il y a 30% de chiites, mais il y a le parti politique le plus incontournable de la scène libanaise, ou de ce qu'il en reste, le Hezbollah, le parti de Dieu. Le Hezbollah, qui est un parti et une milice armée, la milice a 100 000 hommes. Hein. Le Hamas, c'est 20 000 hommes, hein. C'est de la rigolade. Le Hezbollah, c'est 100 000 hommes. Hein. C'est une armée parallèle. Hein. C'est une armée parallèle Le Hezbollah est capable de recruter en dehors des rangs chiites. Moi, j'avais un étudiant en prépa il y a quelques années, dans un établissement dont je tairai le nom, qui était un chrétien maronite du Liban. Maronite, c'est-à-dire catholique. Il était pro-Hezbollah. Alors on a discuté, etc. Il m'a dit, bah oui, je suis pour le Hezbollah. Mais je lui dis, mais vous êtes un chrétien du Liban. Il me dit, mais le Hezbollah, c'est un parti patriote qui lutte contre Israël. Israël nous a piqué les territoires. Moi, je suis un patriote libanais. C'est le seul parti de la classe politique libanaise à être capable de récupérer par les armes ce qu'Israël nous a piqué. Donc moi, je vote Hezbollah en tant que parti patriote. Moi, je m'en fous qu'il soit chiite. Premièrement, il est patriote. Deuxièmement, le Hezbollah, il échappe à la logique clanique et féodale de toute la vie politique libanaise, où en gros, chaque grande famille féodale au Liban, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, hein, ils font tous la paire, a à sa disposition une milice armée, le contrôle d'une vallée et un groupe parlementaire à l'Assemblée. Il y a une milice, la milice des Frangiers, c'est la ville de Sgorta. Qu'est-ce qu'ils ont comme nom de parti? Ça va pas loin. Hein. Le parti Sgortiot, habitant de Sgorta, de Libération Nationale. Ça ne veut rien dire. C'est en fait un parti entre les mains d'une famille féodale. Et puis on baise la bague, et puis voilà. Et puis il y a les Druzes aussi, qui sont également dans ce système féodal. Là. Leur chef, la famille Djoumblat. La famille Djoumblat, grande famille féodale. Ah, très socialiste, progressiste et à un moment pro-soviétique pendant la guerre froide. Ah oui, mais une fois par an, on vient baiser l'anneau quand même. Hein, les habitants du village. On est dans un système totalement féodal et donc à certains moments mafieux. Il n'y a plus d'État libanais, d'ailleurs vous avez remarqué, il n'y a plus de président de la République depuis un an. Il n'y a plus de président de la République, et puis je vais vous dire, on voit à peine la différence. Enfin, ça se passe comme ça. Et en fait, ce Liban féodal, le Hezbollah combat ce clanisme féodal au nom d'une logique d'intégration nationale, luttant contre le morcellement féodal. Eh bien, vous avez des chrétiens qui votent Hezbollah pour cette deuxième raison. Et troisièmement, c'est un parti de justice sociale et plutôt à gauche, socio-économiquement. Eh bien, les déshérités au Liban, ils votent Hezbollah. Et à la fin, ça peut vous faire une coalition parlementaire qui est majoritaire, avec des chrétiens, avec d'autres musulmans. L'ancien président de la République, le général Aoun, là, le dernier que le Liban ait eu en stock, était un chrétien, parce que c'est obligatoire dans la constitution libanaise, il faut être chrétien maronite pour être président. Ben, il était allié au Hezbollah. Ah, puis je peux vous dire que le général Aoun, ça l'empêchait pas de dormir. Hein. Voilà. Faut abandonner les lunettes occidentales pour lire la vie politique là-bas. Les notions de droite et de gauche, mis à part en Israël, plutôt une démocratie à l'occidentale, mais les notions de droite et de gauche n'ont pas de sens. On est de tels clans, on est de telles tribus, on passe des alliances et c'est réversible. Les 14 ans de guerre civile au Liban, entre 75 et 89, c'est des musulmans et des chrétiens contre d'autres musulmans et d'autres chrétiens. Et avec renversement d'alliances tous les deux ans. Donc c'est un système qui est complètement différent. Oui. Bon, donc, arc chiite avec le Hezbollah. Je prolonge l'arc chiite au Yémen, qui depuis les printemps arabes est en guerre civile. Entre une majorité 60% sunnite soutenue par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et une minorité, mais une grosse, chiite, une branche du chiisme qui s'appelle les Zaïdites, qu'on appelle les houthistes du nom de leur chef qui s'appelle Houthi, tout simplement, hein, et qui domine tout le nord du Yémen et la capitale Sanaa. Ils sont chiites, ils sont aidés par l'Iran, contre les sunnites, soutenus par l'Arabie Saoudite. Vous voyez le match régional entre les puissances? Donc, un arc chiite contre ce qu'on appelle parfois un axe sunnite. Les pétromonarchies de la péninsule arabique, la Jordanie, l'Égypte. Et finalement, les accords d'Abraham, c'est l'idée de l'administration américaine de faire en sorte que l'axe sunnite devienne un axe sunnito-israélien contre le danger iranien. Voilà. C'est ça l'indécence géopolitique profonde des accords d'Abraham. Alors certes, c'est de ramener la paix, etc. Mais c'est surtout de créer un match sunnite contre chiite. Parce que les Américains et les chiites, ils n'en ont rien à faire. C'est l'Iran qui veut l'abattre. Parce que l'Iran veut se doter de l'arme atomique. Et ça, les Américains n'en veulent sous aucun prix. Autrement dit, entre un État et une nation palestinienne qui sont pour le moins douteux, entre ce match qui se joue à l'échelle du Moyen-Orient, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne reste plus grand-chose pour la question palestinienne. Elle passe derrière. On finit par l'oublier. J'en viens, et je vais accélérer un petit peu, au deuxième point de mon propos. Et pourtant, il y avait des raisons de voir venir ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y avait des raisons de penser qu'il n'y aurait jamais de 7 octobre, et finalement, elles étaient rationnelles. Mais il y en avait d'autres, tout aussi rationnelles, pour penser que ça risquait de péter à nouveau. La première de ces raisons, c'est la radicalisation des deux camps, au niveau politique. L'opinion publique palestinienne, on n'a pas de chiffres, mais manifestement, elle penche de plus en plus vers le Hamas. Je n'ai pas d'élection démocratique à vous fournir, juste des résultats d'élections étudiantes à l'université de Birzeit, qui est en gros l'université pour, si j'ose dire, l'establishment palestinien, ou le futur establishment palestinien, financé par l'ONU, par l'Union européenne, par un peu les Américains aussi. Bon, un peu le Sciences Po palestinien, si vous voulez. Bon, université de Birzeit, résultat des élections l'année dernière, première historique. La liste patronnée par le Hamas l'emporte sur celle de l'OLP, qui avait toujours gagné les élections étudiantes. Voilà. Le Hamas finit par convaincre les milieux privilégiés chez les Palestiniens. Il n'est plus le parti des déshérités de Gaza. Ah non, il tape dans les parts de marché, si j'ose dire, de l'establishment palestinien. C'est un signe. Ça ne vaut pas élection démocratique, etc. C'est un signe. C'est un signe. Côté israélien, j'ai à peine besoin de vous parler de la radicalisation politique, la poussée de l'extrême droite, qu'elle soit d'ailleurs laïque ou religieuse, et son entrée au gouvernement, au Xème gouvernement Netanyahou. Je ne parle pas des partis religieux orthodoxes traditionnels, assez intégristes sur le plan politico-religieux, mais qui n'étaient pas forcément radicaux sur la question palestinienne. Là, je vous parle d'une véritable extrême droite, suprémaciste juive, xénophobe, anti-arabe, de façon quasiment racialiste. Une véritable extrême droite. Représentée au gouvernement par M. Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, et par M. Smotrich, ministre des Finances, et qui alors lui est le représentant de tous les colons ultra-orthodoxes au niveau religieux de Cisjordanie et de Gaza, qui est leur porte-parole. On le constate, il y a radicalisation des deux côtés. Premier élément pour penser que ça pouvait éventuellement à nouveau explosé. Bon. Deuxième élément qui quand même aurait pu faire penser que ça risquait d'exploser, c'est que la question palestinienne gardait encore sa capacité de mobilisation internationale. Internationale. Lors des émeutes dans les banlieues dans les années 2000 en France, dans les quartiers comme on dit, des drapeaux palestiniens ont été brandis. À peu près sûr que la plupart des manifestants ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants dont je vous parle depuis maintenant trop longtemps, mais pour eux ça signifiait quelque chose. Il y avait un phénomène d'identification dans ce que Gilles Kepel appelle les banlieues de l'islam chez nous, en Occident. Il y avait un sentiment, c'était incroyable d'ailleurs, parce qu'on avait l'impression que Palestine, c'est vieux quoi. Ah ben non, c'était des jeunes. et qui brandissait, qui avait un élément de, je peux pas mieux dire, d'identification à une cause qui, du même coup, pour eux, n'était pas du tout périmée. À chaque sommet des BRICS, vous savez, ce groupe de pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, on n'était pas d'accord sur tout. Mais à chaque fois, la question palestinienne fédérait les BRICS. Comme autrefois, jusqu'en 1994, la dénonciation de l'apartheid en Afrique du Sud. Ça, ça mange pas de pain. Dans les mouvements des non-alignés, on se réunissait, on était d'accord à peu près sur rien. Ah tiens, il faudra quand même voter une motion finale contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et bien là, c'est la cause palestinienne. Autrement dit, pas si morte que ça. Hein ? Dans le cadre, c'était ma précédente conférence, dans le cadre de cet affrontement entre ce qu'on appelle, c'est plus ou moins heureux comme expression, le Sud global contre le Nord, contre l'Occident, la question palestinienne était encore fédératrice. Vous savez de quoi elle était le symbole ? Pour les Chinois, pour les Russes, pour beaucoup de pays du tiers-monde. Ça, il faut le savoir, hein, parce que numériquement, c'est quand même la majorité de l'humanité, c'est pas nous. Elle était synonyme du deux poids, deux mesures. Alors vous vous émouvez quand la Russie envahit l'Ukraine. Mais quand Israël, depuis 50 ans, colonise humainement une terre qui n'est pas la sienne et expulse les Arabes palestiniens, alors là, ça va. Raison pour laquelle un grand nombre de pays du tiers-monde n'ont d'ailleurs pas voté les condamnations de l'ONU sur l'attaque russe de l'Ukraine. Ils n'ont pas voté pour, mais ils se sont abstenus. Non, non, vous ne nous la ferez pas. Hein. Non, 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 vos indignations géopolitiques à vous occidentaux à géométrie variable, non, non, non. Vous vous souciez des Palestiniens? Non. Ben, nous, on ne se soucie pas des Ukrainiens. Hein. Gérez le problème. Un petit peu réducteur ce que je dis, mais c'est l'état d'esprit quand même. Donc il y avait une capacité de mobilisation. Et puis alors, je termine avec l'Iran sur la capacité de mobilisation. Oui, merci. C'est qu'il y a un truc que les gens savent pas avec l'Iran, parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir. C'est que quand l'ayatollah Khomeini a renversé le Shah d'Iran en 79, ça a été la révolution islamique, etc., l'arrivée des enturbanés au pouvoir, le projet de l'Iran, et ça, il suffisait de lire Khomeini, c'est de dépasser l'antagonisme entre sunnites et chiites. Autrement dit, la politique étrangère de l'Iran, on parle d'arc chiite, mais c'est de dépasser ça, pour avoir une part de marché sur l'ensemble de l'Oumma, de la communauté musulmane du monde. Et le soutien au Hamas de l'Iran, Hamas palestinien, donc sunnite, c'est vachement important pour l'Iran. C'est la preuve que l'Iran veut donner que l'Iran n'est pas dans un ghetto chiite, qu'elle s'adresse à tous les musulmans, même sunnites. D'où son soutien au Hamas. Il faut que les Palestiniens et tous les musulmans de la terre comprennent que l'Iran n'est pas une puissance géopolitique chiite, mais une puissance géopolitique musulmane, tout court. Autrement dit, c'est très très important pour l'Iran de soutenir le Hamas. La cause palestinienne, l'Iran s'en contrefiche. Ça, c'est évident. Mais soutenir le Hamas, c'est accomplir l'agenda de l'ayatollah Khomeini, dépasser l'antagonisme sunnite-chiite, un islamisme global transcendra la différence entre sunnite et chiite. Autrement dit, la question palestinienne et le Hamas, c'était un baril de poudre encore. Et puis la troisième chose, et je terminerai mon deuxième point avec ça, vous voyez que j'accélère, la troisième chose pour laquelle c'était un baril de poudre, c'est qu'en réalité le 7 octobre a démontré qu'Israël avait commis une triple erreur, ou avait été plus exactement dans une triple illusion à 1200 morts quand même. Une triple... Et il faudra que M. Netanyahou s'explique à la fin de la guerre, quand même, devant des commissions d'enquête parlementaire. Une triple illusion, à la fois technologique, militaire et politique, qui, malheureusement, a rendu possible l'attaque du Hamas et les 1200 morts. Et puis les 1200 morts, vous le savez, je ne vais pas vous couper l'appétit, mais dans des conditions épouvantables. Ça a été un massacre avec un caractère en plus festif, totalement malsain, enfin c'est épouvantable. Des actes de barbarie. Oui, Oui. Non, non, mais des actes de barbarie. Qui n'ont d'équivalent dans l'histoire de la région que ce que les croisés ont fait aux juifs et aux musulmans à Jérusalem en 1099. Une sorte d'instinct génocidaire allègre, festif. Hein? Bon. Faut remonter à 1099 et à nous. Bon, fin de parenthèse. Illusion technologique. Le dôme de fer. Autrement dit, je reviens à la carte précédente, je suis désolé, mais ça bouge beaucoup au Moyen-Orient. Un dôme de fer. Avec l'aide des Américains, ils ont un système, les Israéliens ont un système antimissile qui était réputé être étanche. Autrement dit, les missiles ne passaient pas. Et de facto, depuis plusieurs années, les tirs de roquettes du Hezbollah ou éventuellement du Hamas depuis la bande de Gaza, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils en faisaient de moins en moins, ça ne passait pas. Autrement dit, sans être une puissance nucléaire avérée, Israël en avait les avantages. Elle avait une sorte d'impunité technologico-militaire. Première illusion, vous savez ce qui s'est passé, c'est que ces systèmes, et les Ukrainiens l'expérimentent aussi, il y a un moment, ils peuvent être saturés. C'est-à-dire que quand vous lancez beaucoup de missiles, il y a un moment, il y en a quelques-uns qui passent. C'est-à-dire ce système électronique, à un moment, a quelques petits trous dans la raquette, minime, hein, mais ça suffit pour faire éventuellement plein de morts. J'ajoute que vous avez un dôme de fer, c'est très bien pour une attaque conventionnelle ou nucléaire, massive, enfin relativement massive, mais ça ne vous protège pas de la guérilla. Ça ne vous protège pas du mec avec un canif, une hache, une... C'est toujours pareil, c'est le coup du 11 septembre, si vous voulez. Vous pouvez avoir la technologie antiterroriste la plus perfectionnée, la plus sophistiquée au niveau technique, ça ne vous protège pas de gens à moto qui passent la frontière et qui vont commettre un massacre. Il y a eu une sorte de vertige de l'illusion technologique de ce grand état par ailleurs technologique qu'est Israël. Mais, voilà, une sorte d'aveuglement par rapport à ça. C'est pas le pire. Il y a deux autres illusions. La deuxième illusion, elle est politico-militaire. Les ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou, qui représentent les colons juifs ultra-orthodoxes au niveau religieux des colonies. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au gouvernement? Ils ont mis le paquet pour que la sécurité soit assurée en Cisjordanie. Et donc ils ont concentré les forces sur la Cisjordanie. Oh, le Hamas à Gaza, pff, on s'en fout, dôme de fer. Non, 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 il faut que nos colons puissent vivre en paix. Voilà. Le coup n'est pas venu de là. Le coup est venu de Gaza. Et ça contribue aux 1200 morts. Ça aussi, devant une commission parlementaire, il va falloir que M. Netanyahou explique qu'il aura à côté de lui, à mon avis, il aura M. Ben-Gvir et Smotrich. Là, c'est là où le politique et le militaire sont mêlés. La priorité militaire, c'était la Cisjordanie, à cause des colonies. Et le coup est venu de Gaza. Et la troisième illusion israélienne, mais celle-là vous la comprenez maintenant facilement, c'est l'illusion Abraham. C'est l'illusion qu'on peut faire la paix par la bande. Que progressivement le monde arabe, on va le faire rentrer dans une normalisation de nos relations avec nous, et qu'à l'arrivée ça se terminera au centre, chez les Palestiniens, qui devront bien constater qu'ils sont esselés, qu'ils sont abandonnés de tout le monde, que tous les Arabes ont signé la paix avec nous. Ça, c'est une illusion. Et c'est même une illusion terrible. Parce que le Hamas a attaqué précisément pour éviter que Abraham ne s'étende à l'Arabie Saoudite. À partir du moment où il y a eu des rumeurs, et elles sont déjà anciennes, que l'Arabie Saoudite et Mohammed Ben Salman étaient d'accord pour à terme signer un papier avec l'État d'Israël, vous imaginez bien que le Hamas avait une carte à jouer. Il fallait qu'il abatte cette carte. Pas forcément dans les modalités abominables qu'il a utilisées, Mais il fallait, si j'ose dire, qu'il marque le coup. Il fallait qu'il mette l'Arabie Saoudite en situation de ne plus pouvoir signer un papier avec un gouvernement israélien qui ferait 24 000 morts dans la bande de Gaza par représailles. Voilà, ça c'était le piège. Et oui, parce que l'Arabie Saoudite, gardienne des lieux saints de l'islam, la Mecque Médine, etc., par ailleurs extrêmement rigoriste sur le plan politico-religieux, hein, la secte des Wahhabites alliée depuis le XVIIIe siècle à la famille Saoud, c'est pas un islam de marrant, hein, je peux vous dire. Mais par ailleurs pro-occidental, plutôt, et par ailleurs très tentée par des accords d'Abraham avec Israël, elle est devant un choix impossible. Si à la suite d'un acte terroriste, Israël réagit, ou mieux encore, sur-réagit. Alors là, c'est le piège parfait pour le Hamas. Et il empêche la signature d'un traité de paix Arabie Saoudite-Israël, et puis il fait peut-être réfléchir les autres aussi en les mettant dans une situation inconfortable. Autrement dit, c'est terrible à dire ce qui s'est passé, mais c'est un choix très politique qu'a fait le Hamas, sans s'embarrasser, on est bien d'accord, de morale, de respect des droits de l'homme ou d'éthique, mais c'est un choix extrêmement politique et réfléchi, froidement réfléchi, mais réfléchi, et qui a sa rationalité. Bien, j'aborde maintenant mon troisième et dernier temps de mon propos, puis après c'est le dessert. La première chose, c'est qu'il y a déjà des dommages collatéraux au niveau international de ce qui s'est passé le 7 octobre. Dommages collatéraux. Tiens, sur l'Ukraine. Effet d'éviction de l'aide américaine à l'Ukraine. C'est parti en Israël. Et le Congrès, alors la Chambre des représentants, pour être très précis, à majorité républicaine, bloque l'aide à l'Ukraine en disant non, il en faut davantage pour Israël à l'intérieur de l'enveloppe globale. Et ça bloque. Et donc l'administration Biden et le Congrès négocient pied à pied. Voilà. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine fait ce que vous savez, quoi, c'est-à-dire du Hamas tous les jours, hein, globalement. Donc il y a ce premier dommage collatéral. Et puis c'est un effet d'éviction aux yeux de l'opinion publique mondiale. Vous savez, l'occidental est ainsi fait qu'il ne peut pas s'émouvoir en même temps de deux trucs à la fois. Il a une capacité d'émotion au sort des peuples victimes qui est quand même très limitée, hein, parce que, vous connaissez l'expression, il faut que la vie continue. Et donc, après s'être ému des Ukrainiens, maintenant il s'émeut. Alors au choix, ou des Palestiniens, ou de ce qui est arrivé aux Israéliens, ça dépend des universités américaines, mais la capacité d'émotion envers l'Ukraine est retombée. Il y a un effet d'éviction, si j'ose dire, affectivo-politique, qui est catastrophique naturellement pour les Ukrainiens, hein, qui leur fait craindre de crever la gueule ouverte face à Poutine, sans que l'Occident, ou alors en se retournant, ah ben merde, il n'y a plus l'Ukraine. On ne comprend pas ce qui s'est passé, il y a encore, mais voilà. Bon, donc là, il y a déjà un dommage collatéral. Des leaders comme Poutine, qui a plutôt soutenu la cause palestinienne dans l'affaire du 7 octobre, et Erdogan, sympathique dirigeant turc, ah ben eux, il y a eu un effet d'aubaine. Ça faisait longtemps, hein, qu'Erdogan essayait de renouer. Vous connaissez l'hostilité entre les Turcs et les Arabes, elle est historique. Il essayait de renouer avec le monde arabe, dans le cadre d'une politique étrangère qu'il appelle d'ailleurs néo-ottomane. C'est-à-dire recoudre les fils avec le monde arabe. Le 7 octobre lui en donne, d'où un discours complètement hystérique, anti-israélien, alors qu'il y a 10 ans, il faisait de la coopération économique et militaire avec Israël. Et là, à l'occasion du 7 octobre, ah ben, il préfère le boulevard arabe, si vous voulez, à la petite rue israélienne comme opportunité géopolitique. Et alors là, il s'en donne à cœur joie, il raconte n'importe quoi devant des foules extatiques, etc. Comme le panarabisme est mort, la Turquie peut désormais être une puissance du monde arabe, voyez ? ce qui, il y a 30 ans, était complètement impensable. Donc il y a des opportunités qui ont été données à des gens qui ne sont pas vraiment pro-occidentaux, si vous voulez. C'est quand même un effet un petit peu inquiétant. Deuxièmement, il y a déjà eu début d'extension géographique du conflit depuis le 7 octobre. C'est fait. C'est fait. Vous avez le Hezbollah libanais qui envoie des roquettes sur la Galilée, sur le nord d'Israël, et l'armée israélienne qui riposte. Il y a un risque naturellement d'entraîner le Liban dans la guerre. Dans une guerre à la fois éventuellement contre Israël, mais aussi dans une guerre civile. Avec ceux qui ne sont pas, et il y en a quand même, qui ne sont pas pro-Hezbollah au Liban. Phrase très inquiétante, mais très lucide, du ministre des Affaires étrangères libanais, car il y a un ministre des Affaires étrangères libanais, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Je préfère une guerre régionale à une guerre civile. Voilà. Autrement dit, la guerre civile entre Libanais avec le Hezbollah d'un côté et les autres de l'autre, ça s'est reparti pour 10 ans, et ce qui ne reste quasiment plus du pays, il passera, si vous voulez. Après qu'il y a un embrasement régional États-Unis-Iran, du moment qu'il n'y a pas la guerre civile au Liban, c'est le principal. Bon. Internationalisation de la crise, je veux bien que nous revenions à la carte numéro 2, merci beaucoup. Il y a eu des frappes israéliennes en Syrie contre des responsables du Hezbollah qui aident Bachar el-Assad à essayer de vaincre les dernières poches de résistance à son régime. Et puis surtout, il y a eu une frappe américaine contre un général iranien présent en Irak. Voilà. On sent que ça se régionalise. C'est un petit parfum d'été 14. Hein, on part d'un point précis, et puis petit à petit, ça s'internationalise. Et... Vous savez, en 1914, quand on disait à Vienne, cette phrase que j'adore, que je ressors tout le temps, « La situation est désespérée, mais on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment grave. » Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Et puis alors, il y a les houthistes du Yémen qui font parler d'eux. Alors, qui envoient des drones et des missiles sur Israël, interceptés par des bateaux de guerre américains en mer Rouge, mais qui surtout menacent de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, qui est ici, qui est une artère vitale pour l'économie mondiale. Océan Indien, mer Rouge, canal de Suez, Méditerranée. Hein, les houthistes peuvent, par des actes de terrorisme, bloqués. Ils n'ont même pas besoin de bloquer avec des bateaux, militairement. Il suffit que le nombre d'attentats terroristes fasse augmenter les primes d'assurance pour les bateaux. Et vous tuez le commerce. C'est terminé. Il y a déjà des pays qui ont annoncé qu'ils ne passeraient plus par là. Ils préfèrent faire le tour de l'Afrique, etc. Mais qu'ils ne passeront plus par là. Parce que la prime d'assurance va être trop élevée. Donc il n'y a même pas besoin dans l'économie mondiale d'avoir des bateaux pour bloquer. Il suffit que les primes d'assurance augmentent. Hein, c'est... Donc il y a un conflit qui est déjà en voie d'internationalisation et de régionalisation. Mais, et ce sera le troisième point de cette troisième partie et donc le dernier point du tie-break, mais je voulais quand même vous laisser sur des raisons d'espérer. Sur des raisons d'espérer. Et si, ce qui s'est passé le 7 octobre et depuis, et si ce bain de sang obligeait enfin à régler sur le fond la question palestinienne, et si possible définitivement? Vous allez me dire, on peut rêver. Le 7 octobre, le 6, 1973, il y a eu la guerre de Kippour. Quelques années après, accord de Camp David, premier accord de paix entre un État arabe et Israël, je vous en ai parlé tout à l'heure. 7 octobre, attaque du Hamas. Et si ça débouchait sur un règlement de la question? Je vais être clair. Et si tout ou partie de la communauté internationale se disait, si on veut éviter d'autres 7 octobre, qu'en plus on ne sait pas prévoir, et qui peuvent se dire « oulé chez nous ». Et s'il fallait, non pas un dôme de fer, mais un accord de paix. Alors vous allez me dire « oui, mais enfin, la paix entre le Hamas et Israël ». Je vais juste vous dire un truc très simple. Vous savez quoi ? On ne fait la paix qu'avec ses ennemis. C'est un truc incroyable, hein. Mais on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Le Hamas, comment signer la paix avec une organisation terroriste qu'en plus Israël veut dégommer progressivement, donc il veut dégommer tous les chefs. Après les Jeux Olympiques de Munich, Israël avait dit on tuera tous les leaders de l'OLP, les uns après les autres. Et puis en 1993, sur la pelouse de la Maison Blanche, on a signé les accords d'Oslo-Washington avec le premier d'entre eux, Yasser Arafat. Je veux dire, rien n'est impossible dans cette foutue région qui s'appelle le Moyen-Orient. On a déjà vu des trucs, mais vraiment plus incroyables, et des retournements de situation. Je donne quelques indices, mais factuels, hein. Je ne fais pas de prospective. En novembre, une grande conférence en Arabie Saoudite de tous les États du Moyen-Orient s'est réunie. On attendait qu'elle en sorte au moins avec un communiqué final condamnant l'État d'Israël pour ce qui se passe à Gaza et imposant des sanctions. Ils n'y sont pas arrivés. Et donc il n'y a pas eu de communiqué final. Tout le monde, tous les diplomates savent que ce qui arrive au Hamas à Gaza arrange tous les États de la région. Je dis bien tous les États de la région, sauf peut-être l'Iran. Et encore. Vous savez pourquoi ? Pas parce que le Hamas est sanguinaire, etc. Comme disait Aragon, le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas un État. C'est une organisation. Avec un État, on peut discuter, même avec un ennemi. Parce qu'inévitablement, à un moment, il est dans la réelle politique. Il est dans le réalisme. Et on signe la paix avec les ennemis de la veille ou de l'avant-veille. Regardez là, réconciliation franco-allemande dans le cadre de la construction européenne. Qui aurait dit ça si peu de temps après 1945? Et les nazis, c'était quand même quelque chose. Bon, eh ben, on fait l'Europe avec eux et il paraît qu'on en est même le moteur avec eux. Bon, avec un État, tout est possible. Avec une organisation para-étatique, on est dans l'instable. On est dans le difficilement prévisible. On est dans quelque chose qu'on ne peut pas complètement dominer. Les États, quels qu'ils soient, détestent ce genre d'organisation. Il y a une sorte, même s'ils sont antagonistes géopolitiquement, de club des États contre les organisations para-étatiques, quelles qu'elles soient par ailleurs. Alors ils s'en servent comme instrument. Puis à un moment, l'instrument leur échappe. Moi, je ne sais pas si le Hamas a demandé la permission à l'Iran de déclencher le 7 octobre. Je pense même que non, que pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous les États sont intéressés à ce que le Hamas soit finalement détruit. Sauf que, jusqu'à quel point ? C'est-à-dire que si le Hamas est complètement détruit, le Hamas, c'est une idée, on peut juger monstrueuse, etc. C'est une idée. Une idée ne meurt pas. Vous tuez le Hamas, vous verrez apparaître une autre organisation, vous voulez que je vous dise, encore plus radicale. D'ailleurs, elle existe déjà. Elle est toute petite. Elle s'appelle le djihad islamique. Et elle a participé d'ailleurs aussi au 7 octobre. Hein ? Elle existe déjà, cette organisation, et figurez-vous, ça peut vous sembler incroyable, elle est encore plus radicale et extrémiste que le Hamas. Il n'est pas exclu qu'un jour prochain, par l'entremise du Qatar, hein, du vilain petit Qatar, il n'est pas exclu qu'un jour, la branche pas militaire, celle-là sera exterminée par Israël. Et puis, d'une certaine façon, elle aura eu ce qu'elle mérite. Non, il n'est pas exclu que la branche politique du Hamas ne négocie pas un accord avec Israël. Petit indice pour que je dise ça. Le Hamas, il y a 10 jours, a dit qu'il était prêt à envisager un gouvernement palestinien autonome commun avec l'OLP. Alors que normalement, ils sont, dans tous les sens du terme, à couteau tiré. Avec l'OLP, qui en est bien d'accord, a reconnu l'État d'Israël en 1993. Vous voyez le message qui passe ? Nous sommes prêts à former un gouvernement avec une formation qui a reconnu l'État d'Israël. Nous ne reconnaissons pas l'État d'Israël, mais nous sommes prêts à gouverner avec une organisation qui reconnaît l'État d'Israël. Là, il faut être sourd pour ne pas entendre le message. Là, il y a quelque chose. Monsieur Blinken, le secrétaire d'État américain, n'arrête pas de faire le tour de la région. Hein. Puis alors lui, c'est pas pour vendre des avions Rafale, si vous voulez. C'est pas pour faire du business, hein, ou vendre nos centrales nucléaires. Non, 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 non. Lui, il fait le tour de la région pour discuter politique. Il en est à son troisième tour. À chaque fois, il passe par le Qatar. Il se passe des trucs. Il y a des gens qui se parlent. C'est évident. Le simple fait qu'encore sous le choc du 7 octobre, il y ait une trêve d'une semaine pour des libérations d'otages. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où, par l'entremise du Qatar, les Israéliens indirectement ont dialogué avec la branche politique du Hamas. C'est fou. Mais c'est ça la politique. C'est ça. Voilà, il y a des petits espoirs. Le Hezbollah, la semaine dernière, a dit qu'il était prêt à envisager de soutenir le gouvernement libanais actuel pour signer un accord de délimitation des frontières terrestres entre Israël et Liban. Et le Hezbollah, l'année dernière, avait donné son autorisation pour qu'il en soit fait de même avec les frontières maritimes. Les choses bougent. La poutre travaille. Les choses bougent au Moyen-Orient et elles peuvent toujours sortir sur quelque chose qui était encore imprévisible, y compris le meilleur, parfois. Je vous rappellerai pour finir en conclusion cette boutade. L'un des convives en a eu la primauté tout à l'heure. Une phrase de Henry Kissinger qui disait « J'ai connu dans ma vie trois personnes » qui ont eu la clé, qui ont trouvé la clé de la solution au problème du Moyen-Orient. Et il ajoutait, le premier est mort, le deuxième est devenu fou, et le troisième a oublié la solution qu'il avait trouvée. Je vous remercie de votre attention.